Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde, il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Pour le programme suivant, vous pouvez écouter le magazine culturel qui sera suivi par l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, nous allons présenter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. L'ambassadeur iranien et le procureur général ont discuté le crime de stupéfiants jusqu'au terrorisme. Deux experts indonésiens et français font des recherches Dumont Rinjani Purba. Canberra fait la promotion de l'Indonésie à travers la maison traditionnelle. 527 journalistes couvrent le sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique. L'Indonésie commercialise des produits des entreprises publiques au Népal. L'ambassadeur américain invite le ministre Marwan à coopérer la technologie de l'information du village. Cher ami, nous présente maintenant le journal complet. L'ambassadeur d'Iran en Indonésie, Faliullah Muhammad, a rencontré le procureur général H.M. Prasetyo jeudi à Jakarta. Après la réunion, Faliullah Muhammad a affirmé que la rencontre avec le procureur général était liée au crime transnational. L'Iran et l'Indonésie ont la bonne expérience et des connaissances dans divers domaines de la criminalité transnationale, comme la violence, le trafic de drogue et le terrorisme. Selon l'ambassadeur, la coopération entre les deux parties est nécessaire pour faire face à ces crimes. Faliullah Muhammad espère que le forum pour échanger des idées continue toujours, compte tenu des relations de ces deux pays étaient très proches. Certains experts de volcans de l'Indonésie et la France ont l'intention de faire des recherches sur l'éruption du mont Rinjani Purba, autrement connu comme le mont Samalas, 1257 après Jésus-Christ. L'expert géologique national, M. Heriadi Rahmat, après une rencontre avec le gouverneur de Nusa Tenggara West, M. Zainul Masdi, a déclaré à Mataram jeudi que la recherche a été commencée à partir de la reconstruction avant et après l'éruption du mont Rinjani Purba. Quelques experts du volcan participeront et seront impliqués dans la recherche, entre autres, l'Agence nationale d'archéologie, l'équipe du ministère de l'énergie et des ressources minérales, l'Université de Gajah Mada et l'Université Mataram, y compris le chercheur du volcan de la France, Franck Lavigne, de l'Université de Paris, Panthéon Sorbonne. On espère que le résultat des recherches peut enrichir les informations sur Nusa Tenggara West, notamment Lombok, concernant l'événement géologique et volcanologique mondiaux. L'ambassade d'Indonésie à Canberra, en Australie, a tenu une exposition des maisons traditionnelles de toutes les provinces d'Indonésie pour introduire la culture et promouvoir le tourisme dans le pays aux peuples de l'Australie. le chef du comité organisateur de l'exposition à Canberra, Najib Pripat Kusuma, dans un communiqué de presse, a déclaré jeudi promouvoir la culture d'Indonésie par l'intermédiaire du Cercle culturel indonésien était l'un des programmes principaux de l'organisation Dharma Wanita ou l'organisation des épouses de fonctionnaires à Canberra. Il a déclaré que les maisons traditionnelles d'Indonésie se composent de diverses particularités de la conception, l'architecture et les ornements devaient être présentés à la population australienne parce que la maison traditionnelle est l'une des attractions touristiques extraordinaires d'Indonésie. Un visiteur, Susanita Dudley, est impressionné profondément par le programme de l'introduction de la maison traditionnelle indonésienne. Selon elle, cet événement est très important car il a fourni des nouvelles connaissances pour le public australien sur la richesse culturelle en Indonésie. Un total de 527 journalistes nationaux et étrangers couvrent le 5e sommet extraordinaire de l'Organisation de coopération islamique, ou OCI, qui aura lieu à Jakarta du 6 au 7 mars 2016. Le directeur général de l'information et de la communication publique du ministère des Communications et de l'Information, M. Joko Haryadi, dans une conférence de presse à Jakarta jeudi, a déclaré que le 5e sommet extraordinaire de l'OCI sera couvert par 391 journalistes nationaux et 136 journalistes étrangers provenant du Japon, l'Angleterre, la Chine, l'Australie, l'Afghanistan, le Pakistan et du Qatar. Cependant, le directorat général multilatéral du ministère des Affaires étrangères, M. Hassan Kleb, a déclaré que 47 des 56 États membres de l'OCI ont confirmé leur présence dans le sommet extraordinaire qui discutera la question de la Palestine et Al-Quds al-Sharif. En outre, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, tels que la Russie, les États-Unis, la Chine, la France et l'Angleterre, y assisteront. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Le gouvernement indonésien, à travers le ministère des entreprises publiques, commercialise des produits au Népal, notamment des produits d'aéronef, des engrais, des outils de défense de la sécurité et la contraception. Le Népal est un pays très potentiel et un pays en développement qui a des grands progrès, a déclaré l'agent pour l'exploitation minière, l'industrie stratégique et des médias du ministère des entreprises publiques, Bagia Mulyanto, après une rencontre avec un homme d'affaires du Népal, Ravi Chandra Singh, au ministère des entreprises publiques, jeudi à Jakarta. Au cours des 15 dernières années, l'Indonésie par Perum Peruri a eu une coopération avec la Banque centrale Népal pour imprimer l'argent et la bande d'assises de cet État. Il souhaite que cette coopération puisse être intensifiée parce que le Népal peut être un point de départ pour les entreprises publiques dans la région sud-asiatique. Selon Bagia, sur la base de communication, le Népal ouvre des possibilités de coopération avec le mécanisme de coopération intergouvernementale. Par conséquent, le gouvernement aiderait les entreprises publiques pour entrer au Népal et d'explorer des affaires dans ce pays. Le ministre rural, le développement des régions défavorisées et la transmigration, M. Marwan Jafar, prennent diverses mesures pour faire l'accélération du village de développer, y compris d'établir la coopération avec les États-Unis. L'ambassadeur américain en Indonésie, Robert Blake, a visité ce ministère pour ouvrir une coopération de développement rural dans 3 secteurs, tels que la technologie, l'énergie et la santé. Lors d'une rencontre avec le ministre Marwan Jafar jeudi à Jakarta, l'ambassadeur américain a déclaré qu'il était heureux d'aider le développement rural dans ce secteur. Il a souligné l'importance de la technologie de l'information pour soutenir l'économie des communautés rurales. Avec la présence de l'Internet de plus en plus massif, certainement il est très bien si tous les villages en Indonésie peuvent bien accéder aux services Internet. En outre, l'Internet et le développement de téléphones mobiles peuvent soutenir la qualité et la productivité de la société. C'était le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Sekjen Luangten, bonsoir. Après le journal, maintenant, nous vous présentons le commentaire et pour le titre, les nouvelles sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord. Enfin, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution imposant de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. La résolution qui a été approuvée mercredi dernier était une réaction à l'essai nucléaire lancé par la Corée du Nord le 6 janvier et le lancement du satellite le 7 février. Le vote des 15 membres exécutifs du Conseil de sécurité de l'ONU a été retardé d'un jour en raison de la demande de la Russie dans les 24 heures pour l'inspection d'un document de projet de résolution. La résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies donnera un grand impact économique pour la Corée du Nord et est très influente sur le projet d'essai nucléaire. Dirigée par les États-Unis et la Chine, cette résolution a interdit toutes les exportations de produits miniers tels que le charbon, le fer, le minerai de fer, d'or et le minerai de titane. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a également fixé une interdiction aux États membres de l'ONU de fournir toutes sortes de carburants d'aviation, y compris le carburant de fusée. Si auparavant la sanction du Conseil de sécurité a appelé seulement tous les États à inspecter les articles de fret de la Corée du Nord en raison qu'il y a la cargaison illicite, mais cette nouvelle résolution exige que tous les États membres de l'ONU aient inspecté toutes les marchandises en provenance de la Corée du Nord et sont envoyées à ce pays ou en passant par ce pays. En effet, la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU vise à arrêter l'essai nucléaire de la Corée du Nord. Comme on le sait, malgré l'essai nucléaire de ce pays obtient les critiques et a provoqué la controverse, la Corée du Nord procède encore à des essais nucléaires et des lancements de missiles. Ce pays a violé clairement la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies précédemment et a ignoré le traité d'interdiction des essais nucléaires, TICHE. Rejetant les diverses critiques, Pyongyang a déclaré que les essais nucléaires et les tirs de missiles chargés des satellites pour le développement de la science et de la technologie. La résolution a été définie et les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU sont appliquées immédiatement. La Corée du Nord devra faire face à l'impact des sanctions, en particulier en termes d'économie. Les sources de revenus provenant des exportations de charbon, de minerais de fer, d'or, de titane et d'autres sont arrêtées. Auparavant, l'Indonésie a averti Pyongyang d'arrêter les essais nucléaires car il peut être considéré comme une provocation. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a exprimé que l'Indonésie a appelé la Corée du Nord d'obéir à la résolution de l'ONU. Est-il raisonnable pour la Corée du Nord pour arrêter éventuellement ses essais nucléaires? Les communautés internationales sont toujours en attente de la poursuite du développement. En effet, il y a encore le sens de Pyongyang d'engager un dialogue ou des négociations avec les membres de six parties tels que la Chine, les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Ainsi, les communautés du monde doivent attendre comment l'attitude du gouvernement de Pyongyang. Chers amis, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec une rubrique de l'histoire d'aujourd'hui, le 4 mars. Premièrement, le 4 mars 1980, Robert Mugabe devient le premier ministre noir à Zimbabwe. Le Robert Gabriel Mugabe est le président de Zimbabwe à présent. À partir de 4 mars 1980, Mugabe était le premier indigène qui devenait premier ministre de Zimbabwe et premier président exécutif. Zimbabwe étant précédemment nommé la Rhodésie et la colonie britannique. Sa position comme président était commencée le 31 décembre 1987, après que ce pays a atteint son indépendance de la Grande-Bretagne. Mugabe est en provenance de Kutama Mission District, Zvimba, Harare Northwest, en Rhodésie Sud. Il prenait son étude à l'école de missionnaires et de 7 étudiants, il est le premier diplômé South Africa's Fourth Harare University. En 1960, il a fusionné avec le groupe Joshua Nkomo du parti ZANU, Zimbabwe African National Union. Ce parti prend Robert Mugabe d'être leader de Zimbabwe. Nous nous tournons vers l'événement du 4 mars 1980, l'inauguration de la pyramide du Louvre. Le président de la République française, François Mitterrand, a inauguré l'entrée principale du musée Louvre à Paris. Le bâtiment en forme de pyramide et en structure de verre et d'acier. L'architecte du bâtiment est IMPI, un Américain d'origine chinoise. L'auteur de la grande pyramide de verre et d'acier est 21 mètres avec une formation de diamants de verre d'un montant de 673. L'idée de la construction moderne rend les pour et les contre sur l'ancienne artistique du musée. Mais enfin, la pyramide de verre du Louvre devient l'icône du bâtiment à Paris. Le dernier, le 4 mars 1992, l'essai de coup d'État de Chavez au Venezuela. Hugo Rafael Chavez Frias a dirigé le coup d'État contre le président du Venezuela, Carlos Andrés Pérez, mais il est échoué. Chavez, étant nombre d'amis, était emprisonné, mais enfin ils étaient libérés 2 ans plus tard. En 1998, Chavez a participé dans les élections générales et en 1999 devenait président du Venezuela jusqu'à présent. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Sixième longtemps, voici donc la mise au point ayant pour le titre « L'Indonésie est prête d'organiser une conférence extraordinaire de l'OCI ». Les conditions alarmantes dans la ville de Jérusalem ou Al-Quds al-Sharif ont forcé l'Organisation de la coopération des pays islamiques, OCI, de tenir le sommet extraordinaire à Jakarta, en Indonésie, les 6 et 7 mars. Il espère qu'il y avait un moyen de solution qui est efficace pour diminuer la tension dans la terre palestinienne qui est maintenant annexée par l'Israël. Dans une discussion relative à la mise en œuvre du sommet extraordinaire de l'OCI à Binagraha, Jakarta, le mercredi, le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Lp Marsudi, dit « Dans un sommet extraordinaire de l'OCI, l'Indonésie devrait être en mesure de prendre une occasion précieuse pour la nation indonésienne. En outre, dans ce sommet, il y a des choses qui seront publiées telles que les appels politiques et la déclaration de Jakarta. Pendant ce temps, dans la conférence de presse du sommet, jeudi le 3 mars, le directeur général multilatéral du ministère des Affaires étrangères, Hassan Klepp, a affirmé que, sur la base de la confirmation, 47 pays de 56 membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI vont envoyer leur délégation le 6 et 7 mars à Jakarta. Hassan Klepp a dit également le sommet extraordinaire de l'OCI aura lieu véritablement au Maroc, mais ce sommet a déménagé en Indonésie parce que le Maroc n'est pas capable de l'effectuer. En fait, le sommet ordinaire de l'OCI aura lieu le 14 avril en Turquie qui discute toutes les questions qui se produisent dans les pays islamiques. Tandis que le sommet extraordinaire de l'OCI Jakarta en Indonésie discutera spécifiquement Jérusalem et Al-Quds Al-Sharif. Hassan Klepp a expliqué le 6 mars, il y a deux sessions, à savoir la réunion des hauts fonctionnaires continuée avec la réunion ministérielle. Hassan Klepp a confirmé que ces deux réunions sont tenues à huis clos et les observateurs n'ont pas été autorisés à y assister. Le 7 mars, lors de la réunion des chefs d'État ou du gouvernement, les observateurs sont autorisés à y assister, même si la réunion a lieu également à huis clos. La réunion des chefs d'État ou du gouvernement commencera à 8h30. Trois pays, à savoir l'Égypte, l'Indonésie et la Palestine, et la secrétaire générale de l'OCI dirigeront la réunion. Selon Hassan Klepp, les représentants du Conseil de sécurité des Nations Unies plus les membres non permanents de l'ONU, deux observateurs des deux pays ainsi que le quatuor de paix pour le Moyen-Orient, en particulier la Palestine, l'Union européenne, l'ONU, les États-Unis et la Russie seront présents au sommet extraordinaire de l'OCI. Le chef du Centre de l'information et des relations publiques du ministère des Communications et de l'Informatique, Chawidou Ismail, a déclaré que plus de 540 journalistes en provenance d'Indonésie et à l'étranger se sont inscrits. Toutefois, selon lui, les journalistes du Moyen-Orient qui s'inscrivent étant peu. Ceci est très surprenant. C'est parce que la faiblesse et le manque d'attention de la part des pays du Moyen-Orient où le sujet de ce sommet extraordinaire devient le sujet des discussions. Ismail Chawidou a également déclaré que le ministère des Communications et de l'Informatique a préparé un endroit spécial des journalistes qui peut accueillir environ 500 journalistes équipés avec des infrastructures de la technologie et de l'information sophistiquées pour soutenir l'événement. Pendant ce temps, le chef de police de Jakarta, l'inspecteur général Tito Karnavian, a déclaré que le département de police de Jakarta a préparé près de 4000 personnels pour assurer la sécurité de la mise en œuvre du sommet extraordinaire de l'Organisation de coopération islamique qui a lieu à Jakarta les 6 et 7 mars. Serge Tor, c'était la mise au point pour ce soir.
L'ambassadeur d'Iran en Indonésie, Valiullah Muhammad, a rencontré le procureur général H.M. Prasetyo jeudi à Jakarta. Après la réunion, Valiullah Muhammad a affirmé que la rencontre avec le procureur général était liée au crime transnational. L'Iran et l'Indonésie ont la bonne expérience et des connaissances dans divers domaines de la criminalité transnationale, comme la violence, le trafic de drogue et le terrorisme. Selon l'ambassadeur, la coopération entre les deux parties est nécessaire pour faire face à ces crimes. Valiullah Muhammad espère que le forum pour échanger des idées continue toujours, compte tenu des relations de ces deux pays étaient très proches. Certains experts de volcans de l'Indonésie et la France ont l'intention de faire des recherches sur l'éruption du mont Rinjani Purba, autrement connu comme le mont Samalas, 1257 après Jésus-Christ. L'expert géologique national, M. Heriadi Rahmat, après une rencontre avec le gouverneur de Nusa Tenggara Ouest, M. Zainul Masdi, a déclaré à Mataram jeudi que la recherche a été commencée à partir de la reconstruction avant et après l'éruption du mont Rinjani Purba. Quelques experts du volcan participeront et seront impliqués dans la recherche, entre autres, l'Agence nationale d'archéologie, l'équipe du ministère de l'énergie et des ressources minérales, l'Université de Gajah Mada et l'Université Mataram, y compris le chercheur du volcan de la France, Franck Lavigne, de l'Université de Paris, Panthéon Sorbonne. On espère que le résultat des recherches peut enrichir les informations sur Nusa Tenggara Ouest, notamment Lombok, concernant l'événement géologique et volcanologique mondial. L'ambassade d'Indonésie à Canberra, en Australie, a tenu une exposition des maisons traditionnelles de toutes les provinces d'Indonésie pour introduire la culture et promouvoir le tourisme dans le pays au peuple de l'Australie. Le chef du comité organisateur de l'exposition à Canberra, Najib Ripat Kusuma, dans un communiqué de presse, a déclaré jeudi promouvoir la culture d'Indonésie par l'intermédiaire du Cercle culturel indonésien était l'un des programmes principaux de l'organisation Dharma Wanita ou l'organisation des épouses de fonctionnaires à Canberra. Il a déclaré que les maisons traditionnelles d'Indonésie se composent de diverses particularités de la conception, l'architecture et les ornements devaient être présentés à la population australienne parce que la maison traditionnelle est l'une des attractions touristiques extraordinaires d'Indonésie. Un visiteur, Susanita Dudley, est impressionné profondément par le programme de l'introduction de la maison traditionnelle indonésienne. Selon elle, cet événement est très important car il a fourni des nouvelles connaissances pour le public australien sur la richesse culturelle en Indonésie. Un total de 527 journalistes nationaux et étrangers couvrent le 5e sommet extraordinaire de l'Organisation de coopération islamique, ou OCI, qui aura lieu à Jakarta du 6 au 7 mars 2016. Le directeur général de l'information et de la communication publique du ministère des Communications et de l'Information, M. Joko Haryadi, dans une conférence de presse à Jakarta jeudi, a déclaré que le 5e sommet extraordinaire de l'OCI sera couvert par 391 journalistes nationaux et 136 journalistes étrangers provenant du Japon, l'Angleterre, la Chine, l'Australie, l'Afghanistan, le Pakistan et du Qatar. Cependant, le directorat général multilatéral du ministère des Affaires étrangères, M. Hassan Kleb, a déclaré que 47 des 56 États membres de l'OCI ont confirmé leur présence dans le sommet extraordinaire qui discutera la question de la Palestine et Al-Quds al-Sharif. En outre, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, tels que la Russie, les États-Unis, la Chine, la France et l'Angleterre, y assisteront. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Le gouvernement indonésien, à travers le ministère des entreprises publiques, commercialise des produits au Népal, notamment des produits d'aéronefs, des engrais, des outils de défense de la sécurité et la contraception. Le Népal est un pays très potentiel et un pays en développement qui a des grands progrès, a déclaré l'agent pour l'exploitation minière, l'industrie stratégique et des médias du ministère des entreprises publiques, Bagia Mulyanto, après une rencontre avec un homme d'affaires du Népal, Ravi Chandra Singh, au ministère des entreprises publiques, jeudi à Jakarta. Au cours des 15 dernières années, l'Indonésie par Perum Peruri a eu une coopération avec la Banque centrale Népal pour imprimer l'argent et la bande d'assises de cet État. Il souhaite que cette coopération puisse être intensifiée parce que le Népal peut être un point de départ pour les entreprises publiques dans la région sud-asiatique. Selon Bagia, sur la base de communication, le Népal ouvre des possibilités de coopération avec le mécanisme de coopération intergouvernementale. Par conséquent, le gouvernement aiderait les entreprises publiques pour entrer au Népal et d'explorer des affaires dans ce pays. Le ministre rural, le développement des régions défavorisées et la transmigration, M. Marwan Jafar, P. prennent diverses mesures pour faire l'accélération du village de développer, y compris d'établir la coopération avec les États-Unis. L'ambassadeur américain en Indonésie, Robert Blake, a visité ce ministère pour ouvrir une coopération de développement rural dans trois secteurs, tels que la technologie, l'énergie et la santé. Lors d'une rencontre avec le ministre Marwan Jafar jeudi à Jakarta, l'ambassadeur américain a déclaré qu'il était heureux d'aider le développement rural dans ce secteur. Il a souligné l'importance de la technologie de l'information pour soutenir l'économie des communautés rurales. Avec la présence de l'Internet de plus en plus massif, certainement il est très bien si tous les villages en Indonésie peuvent bien accéder aux services Internet. En outre, l'Internet et le développement de téléphones mobiles peuvent soutenir la qualité et la productivité de la société. C'était le journal de la Voix d'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Cette fois, je vais présenter l'activité de descendre le fleuve de Kahayan dans la province de Kalimantan du Sud. Le fleuve de Kahayan est l'un des plus longs fleuves sur l'île de Kalimantan qui divise Palangkaraya, la capitale du Sud Kalimantan, en deux parties. Ce fleuve a une superficie plus de 81 000 km², 600 km de long et 500 m de large avec une profondeur jusqu'à 7 m. Le Kahayan, appelé aussi le fleuve de Biaju Besar ou Grand Dayak, le plus grand fleuve de la province indonésienne de Kalimantan Central. Le paysage de ce fleuve est très beau avec l'atmosphère de la tribu Dayak. Grâce à sa beauté, le fleuve est exploité par le gouvernement local comme le site touristique de descendre le fleuve de Kahayan. Il n'est pas difficile d'aller au site touristique du fleuve de Kahayan parce qu'il est situé au centre-ville de Palangkaraya. De l'aéroport Chili Ribut, il faut environ 3 minutes en voiture pour aller à la ville de Palangkaraya. Il y a plusieurs options de programme que vous pouvez essayer. D'abord, le programme régulier, à savoir de descendre le fleuve de Kahayan pendant 3 jusqu'à 4 heures en utilisant le type de petit bateau, souvent appelé le bateau traditionnel klotok. Vous devez payer 75 000 par personne. Ce type de bateau peut accueillir jusqu'à 20 personnes ou bien le bateau avec la capacité de 8 jusqu'à 9 personnes avec des prix de location de 250 000 par heure. D'autres programmes qui est plus cher est de 10 millions jusqu'à 15 millions rupiah en utilisant un grand bateau qui possède les installations tels que le lit, le restaurant, la salle de bain, etc. Avec ce bateau, vous voyagerez sur le fleuve de Kahayan pendant 24 heures. Tout au long du fleuve de Kahayan, vous pouvez voir la faune typique de Kalimantan qui n'existe pas dans d'autres régions, entre autres le orang-outan. Vous pouvez également voir des maisons flottant autour du fleuve qui sont très simples et différentes avec des colonies dans la grande ville. En outre, vous pouvez également visiter aux zones de pêche ou de sites historiques et Nyaru Menteng, la conservation des orang-outans sur l'île de Gajah. Dans ces zones touristiques, vous serez autorisé à entrer avec un temps prédéterminé. À Nyarumenteng, vous pouvez voir une variété d'animaux typiques de Kalimantan, entre autres macaca fascicularis, selasing gris, alonki. Avant d'accueillir le phénomène naturel éclipse solaire totale, le gouvernement local de Palangkaraya, Kalimantan Central, prépare un voyage des eaux sur le fleuve de Kahayan et construire le café flottant sur ce fleuve, notamment dans la région de Flamboyan Bawah, Palangkaraya Raya, et l'éclipse solaire totale recevra 14 ambassadeurs des amis. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous de nouveau dans le programme L'Indonésie en couleur. Pour l'édition de ce soir, nous vous informons sur l'Indonésie libre des déchets avec Clou. Jusqu'à présent, le problème des déchets hante encore l'Indonésie. En outre, selon les résultats de recherche d'une équipe dirigée par Diana R. Jambek, l'Université de la Géorgie a déclaré que l'Indonésie a placé le deuxième rang dans le monde en tant que contributeur des déchets en plastique dans la mer. Cela est devenu une preuve que l'Indonésie fait face à un état d'urgence des déchets qui doit être résolu ensemble. À cet égard, une application à la base de médias sociaux soutient le mouvement L'Indonésie libre des déchets 2020. Clou est une application de médias sociaux qui rend facile pour les utilisateurs d'informer les problèmes principaux de l'environnement et les moments importants qui se produisent à son alentour. Les utilisateurs peuvent rapporter toutes les sortes de problèmes qui se produisent autour de l'environnement, tels que les problèmes d'assainissement, des routes endommagées, des vendeurs de roues illégales et d'autres. En plus de déposer des plaintes, les utilisateurs peuvent également soumettre des questions de la ville dans un forum spécial dans cette application. Ensuite, parmi les utilisateurs peuvent discuter pour trouver des solutions aux problèmes qui se produisent. Ce qui est intéressant, cette application est connectée à un service de navigation qui permet aux utilisateurs de visualiser des rapports de problèmes survenus à Jakarta, tels que l'emplacement des inondations et des embouteillages. Les utilisateurs peuvent également créer les images spéciales qui correspondent au goût de montrer la personnalité de l'utilisateur dans ce forum. C'est-à-dire, cette application peut être appelée comme un lieu de rassemblement pour les citoyens de Jakarta à critiquer un problème qui se passe autour d'eux. Selon Muhammad Agung Prabowo, Marketing Communication Executive Clou, les ordures dominent le rapport public à Jakarta dans les données qui ont été retirées par l'équipe. Clou ne se limite pas seulement aux médias sociaux, mais aussi collabore avec la communauté, l'agence d'entreprise et les organismes qui ont une vision pour être courageux de changer en 2016. Comme par exemple, Clou a coordonné avec le ministère de l'Environnement pour que la régulation sur les déchets puisse être contrôlée. Lié au problème des déchets, Clou a également collaboré avec les communautés qui se soucient du traitement des déchets ou de l'environnement comme Bersinyo, Dayot, des sacs en plastique, Osoji Club, Pemuda Peduli Sampah, et rejoint avec le mouvement Indonésie libre des déchets en 2020. Concernant les activités Indonésie libre des déchets en 2020, Agung a ajouté que Clou a invité 2300 participants à collaborer avec 40 communautés. L'application a été lancée en décembre 2014 et est déjà disponible dans App Store et Play Store et maintenant a été téléchargée par 300 000 utilisateurs. En outre, Clou cible 200 millions d'utilisateurs cette année. Salutaires, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers auditeurs de la Voix de l'Indonésie, voici le magazine de la musique de la Voix de l'Indonésie, édition de vendredi 4 mars 2016. Ce magazine vous présente des genres musicaux et aussi des musiciens indonésiens. Pour ce soir, nous présentons le chanteur Wawan Asmara. Bon, avant de continuer notre rencontre, écoutez d'abord la chanson de Wawan Asmara intitulée « Dua Hati ». On écoute.
Kasihku, maafkan
Chers auditeurs et auditeurs, Wawan Asmara a besoin beaucoup de temps pour être célèbre dans l'industrie musicale en Indonésie. Il a commencé sa carrière en 2000 en tant que chanteur et il a aussi créé des chansons. Wawan Asmara, il est né à Cilacap le 22 décembre 1974. En 2007, Wawan a publié son premier album avec le single Ulepis Shahara. Ensuite, il a sorti l'EPIS Cassandra. Wawan Asmara a également développé sa carrière comme l'agence pour l'artiste et le programme de spectacle, y compris de développer la carrière des chanteurs indonésiens, entre autres Benny Bersaudara, Eva Hassan et Duo Sain. Chers auditeurs et auditeurs, avant de continuer notre rencontre, écoutez encore la chanson de Wawan Asmara intitulée Shahara. Bonne écoute.
Sahara, kasihku,
Chers auditeurs, auditeurs de la voix de l'Indonésie entière, Wawan Asmara a dit que la musique de Dangdut est la partie intégrante de sa vie. Il espère duo de scène peut rivaliser avec les autres chanteurs de Dangdut. Et son premier album, Kena Batunya, peut être accepté par les amateurs de musique de Dangdut dans le pays. Bon, chers auditeurs, auditeurs de la voix de l'Indonésie, c'était le magazine de musique de vendredi, comme d'habitude, avec le genre de musique de Dangdut, avec Wawan Asmara. Bon, avant de terminer, écoutez d'abord deux dernières chansons, c'est-à-dire deux dernières chansons intitulées Terluka, Bonne écoute et au revoir.
Merci d'être fidèle à Nontranten, la voix d'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. C'était des chansons indonésiennes, ainsi se termine notre mission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@boi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.